Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde et dernière émission sur la promotion et les défenses des droits humains du mois de mai. Et pour l'animer avec moi ce soir, on a encore bien évidemment plein de sujets et plein de pays sur plein de pays différents concernant l'actualité des droits humains. Et pour l'animer avec moi ce soir, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a Edith.
Bonsoir.
Voilà. Donc, ben, on va entamer directement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je crois que c'est Claire-Lise qui va vous faire un petit point sur l'Afghanistan et les atteintes aux droits des femmes en Afghanistan, si je ne me trompe pas.
Oui, donc depuis le printemps, on vous a parlé à plusieurs fois de ce qui se passait pour les femmes en Afghanistan et en Iran. On y est revenu à plusieurs reprises. Et là, il y a un dossier qui vient d'être... fait par rapport justement au crime des talibans qui s'apparente presque à un crime de guerre contre les femmes et contre les filles. Alors, c'est un rapport qui vient de sortir et ce que je vais vous rapporter, donc ça a été publié sur le site d'Amnesty en date du 26 mai 2023. Depuis qu'ils se sont arrogés le pouvoir en août 2021, les talibans mènent une véritable guerre contre les femmes et les filles afghanes. Cette campagne de persécution fondée sur le genre est organisée, généralisée et systématique. Elle pourrait constituer un crime contre l'humanité. Nous demandons que les talibans soient poursuivis pour ce crime et que les femmes et les filles fuyant les persécutions en Afghanistan soient automatiquement considérées comme des réfugiés. Depuis que les talibans se sont arrogés le pouvoir, donc elles sont prises pour cible systématiquement. Les femmes ont été bannies de la vie publique, empêchées d'accéder à l'éducation, visées par des interdictions de travailler et de se déplacer librement, emprisonnées, soumises à des disparitions et torturées, notamment pour avoir dénoncé ces politiques et résisté à la répression. Dans notre nouveau rapport intitulé « The Taliban's War on Women », The Crime Against Humanity and Gender Persecution in Afghanistan. Bon, alors là, vous rigolez, vous pouvez.
On attend.
Nous dénonçons cette guerre menée par les talibans contre les femmes et les filles afghanes. Il s'agit d'un système d'oppression et de persécution à caractère sexiste qui, selon notre analyse juridique, pourrait constituer un crime contre l'humanité. Alors, avec la campagne de persécution à motivation sexiste menée par les talibans est si étendue, si grave et si systématique que, pris ensemble, ces actes et politiques constituent un système répressif visant à assujettir et à marginaliser les femmes et les filles dans tout le pays. Notre rapport indique que ces agissements remplissent les 5 critères relatifs au crime contre l'humanité qu'est la persécution fondée sur le genre. Ça, c'est la citation que je viens de vous faire, c'est de Santiago A. Compton, qui est le secrétaire général de la Commission internationale de juristes. Donc, avec cette Commission internationale de juristes, nous demandons que les procureurs de la Cour pénale internationale, la CPI, incluent le crime contre l'humanité de persécution sexiste dans leur enquête en cours sur la situation en Afghanistan. Nous demandons également aux autres États d'exercer leurs compétences universelles ou de recourir à d'autres moyens légaux pour traduire en justice les membres des talibans suspectés d'être responsables de crimes relevant du droit international. En effet, nous plaidons pour que les femmes et les filles, enfin, fuyant les persécutions en Afghanistan, soient automatiquement considérées comme des réfugiés. Alors, aidez-nous à enquêter, alerter et agir. Donc ce rapport conjoint avec la Commission internationale de juristes, la CIG, couvre la période allant d'août 2021 à janvier 2023 et s'appuie sur le nombre croissant d'éléments de preuve, notamment le rapport d'Amnesty International intitulé « Death in Slow Motion » de 2022 et des organisations de la société civile et les autorités des Nations Unies. Il vient en complément du travail réalisé par les experts des Nations Unies et des groupes de défense des droits des femmes dans le but de jeter les bases de la réponse vigoureuse requise afin de garantir la justice, l'obligation de rendre des comptes et la réparation des crimes contre l'humanité que constituent les persécutions fondées sur le genre. Ce rapport fournit également une évaluation juridique des raisons pour lesquelles les femmes et les filles fuyant les persécutions en Afghanistan devraient automatiquement être considérées comme des réfugiés ayant besoin d'une protection internationale. Alors, je vais reprendre un petit peu, sans rentrer complètement dans les détails, les restrictions qui sont imposées aux femmes par les talibans. Alors, nous dénonçons, depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, les femmes et les filles sont privées d'éducation. Les filles sont exclues de l'école après le primaire à l'âge de 12 ans. Le 20 décembre 2022, les autorités de facto ont ordonné aux universités de ne plus inscrire de femmes dans leurs établissements. Nous dénonçons. Le droit des femmes à travailler en Afghanistan est gravement compromis, bien que les autorités n'aient pas émis d'interdiction de travailler généralisée visant toutes les femmes. Elles ont imposé des mesures qui ont considérablement réduit les possibilités d'emploi des femmes. Elles sont écartées des rôles politiques et de la plupart des emplois de la fonction publique. Et les décrets du 24 décembre 2022 et du 4 avril 2023 visent à interdire aux femmes de travailler au sein d'organisations non gouvernementales et des Nations Unies. Leurs opportunités professionnelles sont de plus en plus restreintes et cette interdiction prive les femmes de la possibilité de gagner un revenu par elles-mêmes et leur famille. Elle les efface de la société. Nous dénonçons. Les femmes sont privées de leur liberté de circulation. Un décret prévoit que les femmes doivent rester chez elles et qu'elles ne quittent leur domicile qu'en cas de nécessité. Lorsqu'elles se déplacent, elles doivent se déplacer avec un mahram ou chaperon masculin pour les longs trajets. Ça ressemble à ce qui se passe en Arabie Saoudite. Donc, il y a beaucoup de femmes arrêtées et détenues pour s'être montrées en public sans mahram ou avec un homme qui ne remplit pas les conditions requises. Nous dénonçons que les femmes et les filles sont privées de leur liberté de choisir les vêtements qu'elles portent en public. Donc, il y a un code vestimentaire strict qui leur est imposé. Les talibans ont lancé des campagnes publiques recommandant aux femmes de porter un hijab qui les couvre de la tête aux pieds. Les femmes sont privées de leur droit à l'expression, à la liberté d'expression, d'association, de réunion pacifique ou de participation à la vie publique. Voilà. Et donc, des dizaines de femmes sont arrêtées puisqu'elles ont participé à des manifestations. Les femmes et les filles afghanes qui contestent ces politiques abusives sont maltraitées. Donc elles sont arrêtées, détenues de matière arbitraire par des membres des talibans pour de prétendus délits moraux. Et leurs crimes, ce sont des infractions mineures à leur politique discriminatoire, telles que la règle leur interdisant d'apparaître en public sans un mahram ou avec un homme ne remplissant pas les conditions pour être un mahram. Ou alors parce qu'elles ont participé à des manifestations pacifiques. Les femmes, pendant leur détention, ont été victimes de tortures ou d'autres formes de mauvais traitements. On dénonce aussi les mariages forcés qui sont en forte hausse, des mariages d'enfants, des mariages précoces et des mariages forcés en Afghanistan, donc en forte hausse sous le régime des talibans. Et c'est un régime d'oppression étouffant, unique et organisé. Voilà, donc ils dénoncent aussi le fait que les talibans ne respectent pas le droit international et des choses qui ont été signées par l'État afghan et qui ne sont pas respectés, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la convention relative aux droits de l'enfant. Voilà. Et ils ne respectent pas non plus le statut de Rome. Donc, c'est un traité aussi qui avait été signé et qui ne sont pas respectés par l'État taliban. Donc, tout ça, c'est dénoncé dans ce fameux rapport. Et nous demandons que la CPI inclut le crime contre l'humanité de persécution sexiste dans leur enquête au cours de la situation en Afghanistan. Nous demandons également aux autres États d'exercer leurs compétences pour dénoncer ce qui se passe en Afghanistan. Et je vois que j'ai des petits signes, donc je vais laisser, parce que je suis arrivée au bout pratiquement de l'article, pour vous dire l'essentiel de ce qu'il y a. Donc vous pouvez le retrouver, ce rapport, sur le site d'Amnesty. Il est très bien fait. Je pense qu'il y a la traduction française.
Non, je ne pense pas qu'il y a encore... Enfin, j'ai jeté un coup d'œil.
C'était pas bien le nom du titre en anglais ?
Si.
T'as rigolé ?
Si, non, mais simplement, je disais qu'on allait, dans une prochaine émission, quand justement le rapport ou une partie du rapport serait traduit, qu'on donnera le titre en français. C'était pour ça que ça m'a fait sourire.
Bah, de toute manière, l'État de l'Afghanistan et son rapport aux femmes. Oui, hein. Oui. Je ne sais pas ce que l'anglais, je n'ai même pas trop suivi.
Mais je crois que ce rapport, pour l'instant, n'est paru qu'en anglais, pour l'instant. Ouais. Donc, je crois qu'il y a que la version anglaise.
Et même si on connaît la situation en Afghanistan des femmes, c'est bien de l'avoir réellement sur tout ce qui peut leur être reproché. Ça permet aussi, en tant que défenseur, de savoir ce qu'il faut leur dire. On n'est pas contre eux, on est contre ce qu'ils font aux femmes.
Et ce qu'ils disaient aussi, c'était assez parlant, c'est par rapport aux femmes afghanes qui avaient demandé l'asile en France. Alors, il y en a eu un certain nombre qui ont demandé l'asile en France. Et malheureusement, il y en a quand même quelques-unes qui ne l'ont pas obtenue. Et ça, c'est scandaleux parce que je crois qu'elles sont 83 à ne pas avoir été reconnues réfugiées par l'OFPRA, alors qu'elles ont subi les mêmes choses.
Pas dire que c'est un pays sûr pour les femmes, retourner en Afghanistan. Hein.
Non, mais je sais plus exactement où c'est. Je l'avais préparé, puis je ne l'ai pas souligné en jaune. Donc, voilà.
Et ce qui est terrible, c'est le retour en arrière pour les femmes, pour les enfants. Et quand tu parlais de mariage précoce avec la situation économique qui est dramatique en plus en Afghanistan, donc ça c'est vraiment terrible.
En 2021, sur 1628 demandes d'asile faites par des femmes afghanes à l'OFPRA, 104 ont été rejetées, c'est-à-dire un dixième. Alors c'est vrai qu'à l'échelle des demandes d'asile auprès de l'OFPRA, c'est pas beaucoup. Mais quand même, c'est quand même étonnant parce que la situation des femmes en Afghanistan,
il n'y a pas photo.
Quoi.
Non, tout à fait, on en a déjà parlé, malheureusement on en reparlera. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, pour envoyer aussi les auditeurs et les auditrices, il y a un certain nombre de chaînes de télé, enfin certaines chaînes de télévision, ne soyons pas trop optimistes, qui ont fait d'excellents reportages sur la situation en Afghanistan. Je sais qu'Arte en a fait, par exemple. Et je crois que la 5 aussi a dû en faire.
Arte, donc, la 5, et puis 24 aussi.
Oui, c'est ça. Voilà.
C'est toujours les mêmes chaînes.
C'est toujours les mêmes chaînes, effectivement.
Oui, mais là, on peut avoir réellement des documentaires qui prennent le temps de montrer et d'expliquer. Et ça, on en a besoin.
Voilà. Et je me souviens d'une émission qui était passée sur Arte, où ils avaient réussi à interviewer des responsables talibans. Par rapport aux exactions qu'ils commettaient et aux promesses qu'ils avaient faites quand ils sont revenus au pouvoir d'être plus respectueux des droits fondamentaux. Personne ne les a cru, malheureusement, il ne fallait pas les croire. Mais ce qui était frappant, c'était la gêne de ce monsieur pour répondre aux questions. Il était même tellement gêné qu'en fait, il a coupé court à ses réponses en disant que le temps de l'interview était dépassé. Voilà, parce qu'en fait, il était tout à fait incapable de donner des arguments plausibles par rapport à leur attitude absolument inqualifiable. Voilà. Donc, si vous avez un petit peu de temps, allez voir sur les replays de ces différentes chaînes et vous allez retrouver des documentaires qui illustrent tout à fait ce que Clarlise vient de vous dire. Voilà. Et je crois que c'était Edith qui voulait vous parler.
Une petite,
elle ouvre des yeux ronds. Mais si, c'était
c'est parce que je me dis, une petite musique, mais ça sera après moi. Allez, attendez encore un peu, ça va venir.
Faites la réélection.
Oui, j'ai vu que... Recep Tayyip Erdogan a été réélu en Turquie. Alors quand même, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux tours. Il y avait quand même un opposant qui a récupéré pas mal de voix au premier tour. Mais au deuxième tour, les Turcs ont choisi pour 5 ans leur président Erdogan. Donc pour nous, en tant que militants, on sait que ça va être 5 ans où il va y avoir encore beaucoup de problématiques de droits humains en Turquie, que ça soit pour les universitaires, pour les journalistes, les journaux. Et j'ai trouvé une petite brève là, donc je l'offre au peuple turc pour qu'ils se souviennent qu'en élisant de nouveau Erdogan, eh ben, ça va être compliqué pour eux. Donc là, si vous vous rappelez, il y a eu ce grand séisme en février. Et dès le lendemain, l'État a proclamé l'état d'urgence dans 10 départements de Turquie. Bon, ça, c'est complètement logique. Mais des responsables de l'application de la loi déployés dans ces régions dévastées ont alors utilisé ce régime d'exception comme un permis de torturer, de maltraiter, voire de tuer en toute impunité. Et c'est Amnesty qui s'est mis avec Human Rights Watch qui accuse la Turquie. Ces deux ONG ont recueilli 34 témoignages, examiné des vidéos se rapportant à 13 cas de violence perpétrés par des policiers, des gendarmes, le tout dans des zones rurales où des soldats déployés dans la zone d'Antakya, un homme que les forces de l'ordre soupçonnaient de pillage est mort en détention après avoir été torturé. Voilà, voilà, la Turquie hier et peut-être la Turquie demain.
Oui, et je sais aussi, pour avoir entendu aux informations, que ce soit Erdogan ou son autre candidat, ils étaient juste d'accord sur un point qui est quand même très problématique, c'est qu'ils ils étaient d'accord pour renforcer l'expulsion des réfugiés syriens vers leur pays d'origine, aussi bien l'un que l'autre.
Voilà, hein, voilà. Ouais, en deuxième tour, voilà. Mais c'est compliqué.
Donc oui, c'est compliqué.
Et l'Europe va pouvoir se regarder peut-être en face et ça va être aussi autre chose à voir.
Mais je pense qu'on a encore le temps pour une autre brève. Donc voilà. Mais si, on a encore le temps pour une autre brève.
Alors une autre brève.
Les pauses musicales, c'est toutes les 20 minutes en une heure. C'est pas tous les 4 heures.
Oui, voilà. Mais moi, j'avais envie de musique. Eh bien, écoutez, Big Brother, vous vous rappelez cette chronique sur les droits des nouvelles technologies qui se passe dans notre journal, la chronique d'Amnesty, tous les mois. Bien, c'est compliqué d'être influenceur dans certains pays. Alors, il y a deux pays, il y a le Mali et il y a l'Irak. Alors, au Mali, une influenceuse bayonnée, elle s'appelle Rokia Doumbia, et elle mâche pas ses mots pour dénoncer l'incurie du régime dans ses vidéos quasi quotidiennes diffusées en direct sur TikTok. Dans l'une d'elles, elle dénonçait l'échec de la junte au pouvoir depuis 2020. Donc, je vous rappelle, on est au Mali, à combattre l'insécurité et l'inflation. Eh bien, dès le lendemain, dans son live, Rokia Doumbia a été interpellée le 13 mars et écroulée pour incitation à la révolte.
Peut-être écrouée plutôt qu'écroulée.
Ah, mais oui, carrément. Mais peut-être qu'elle a été écrouée, ouais, je pense aussi. Et trouble à l'ordre public. Voilà, Mali, influenceuse. Un autre pays ? Allez !
Oui.
Irak.
Alors, ça va être chouette encore.
Nuée de corbeaux. J'aime bien le titre. Le ministère de l'Intérieur irakien ne recule devant rien pour traquer les influenceurs et les militants postant des contenus sur les réseaux sociaux. Depuis le 10 janvier, il appelle carrément à la délation. Une plateforme a été mise à la disposition des citoyens zélés pour leur permettre de dénoncer des propos qui, selon eux, violent la morale publique, les coutumes et les traditions. Et ça marche. Des dizaines de personnalités publiques et des militants ont été arrêtés pour, je cite, « obscénité » ou « indécence » et condamnés à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison ferme. 6 mois pour s'être filmé en train de danser devant la télé. 48 heures de garde à vue pour avoir parodié la façon de cuisiner des Irakiens. En un mois, 96 000 contenus ont été signalés.
Oh la vache!
Alors, on va dire Internet, mais on va dire aussi les habitants, quand même, les Irakiens, quoi. Enfin,
oui,
bon, c'est compliqué. Je pense qu'il y a un peu de menace aussi derrière, mais...
Oui, sans doute. Bon. Sans doute.
Liberté d'expression, où es-tu ?
Bon, ben, il dit...
Est-ce que j'ai droit de la musique ?
Voilà, j'allais dire, puisque tu attends la pause musicale, la voici.
La voici.
On se retrouve juste après.
J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras. Le bruit des bottes qui résonne, mon père a connu ça. Frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas. Parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas.
plus rester, plus partir, plus rêver. On finit naufragé, solitaire, barbelé aux frontières. Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras. Capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris, ma beauté fatale, symbole de la France. Je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire. De novembre encore, pose ses mains sur moi. Goût de fer et de sang dans la mort, je n'aime pas ce mois-là. La liste des droits de l'homme, la mélancolie. Juste un homme parmi les hommes, tout seul dans Paris. Plus rester, plus partir, plus rêver. On finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite de son émission sur la promotion et la défense des droits humains. Et on vient d'écouter Bernard Lavilliers, un morceau qui s'appelle L'Exil. Voilà. Donc moi je vais vous parler d'un dossier que j'ai trouvé en préparant l'émission, encore une fois, et qui est sur un autre site d'Amnesty, qui est le site du secrétariat international, c'est amnesty.org. On vous en recommande aussi la lecture, la version française bien sûr, et qui parle de l'utilisation dans la répression des manifestations. Vous savez qu'Amnesty fait une campagne, on vous en a déjà parlé, sur le droit de manifester, qui va durer plusieurs années. Et l'utilisation, donc au niveau français, mais pas que, des gaz lacrymogènes pour réprimer les manifestants. Voici donc, je vais vous lire une partie, parce que pas tout, mais une partie de la présentation de ce rapport, qui est en fait une mise à jour de choses qui avaient déjà été publiées. Le recours abusif au gaz lacrymogène par les forces de sécurité dans le cadre de mesures répressives brutales contre les manifestations en Iran, au Pérou et au Sri Lanka l'an dernier caractérise les nombreux nouveaux cas décrits sur le site d'Amnesty International consacré à cette question. Donc l'enquête s'appelle « Gaz lacrymogène », une enquête qui vient d'être mise à jour.
T'as de la chance, toi, c'est pas en anglais ?
Non. Cette enquête, il y a la version anglaise aussi, hein, donc, mais moi j'ai pris la version française. Cette enquête interactive inclut désormais en détail les détails sur 30 nouveaux cas dans 13 pays où la police et les forces de sécurité ont commis des violations en faisant une utilisation inappropriée du gaz lacrymogène. Depuis le lancement en 2020 de ce site et de l'enquête qui a été menée, Amnesty International a pu confirmer qu'une utilisation abusive du gaz lacrymogène a été faite dans plus de 115 pays et territoires dont, alors voici la liste établie par Amnesty, États-Unis, France, Guatemala, Inde, Israël et territoires palestiniens, Liban, Mali, Myanmar, la Birmanie, Nigeria, l'Ouganda, Serbie, Soudan et Tunisie. Voilà, donc on ne manque pas d'exemples. Année après année, Amnesty International continue à recenser des exemples de recours dangereux et irréfléchis au gaz lacrymogène dans le monde entier. Des personnes sont descendues dans la rue en signe de protestation afin de réclamer le respect de leurs droits fondamentaux et se sont heurtées à des violences injustifiées ou un recours excessif à la force, notamment, dans de nombreux cas, l'utilisation illégale de gaz lacrymogène. Et ça, je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, ça rappellera aussi ce qui se passe en France par rapport aux manifestations récemment. Les autorités de tous les pays doivent respecter le droit de manifester pacifiquement et exiger que les responsables de l'utilisation illégale du gaz lacrymogène contre des personnes exerçant leurs droits les plus fondamentaux rendent des comptes. La campagne « Droit de manifester », donc menée par Amnesty, a pour objectif de dénoncer les attaques contre les manifestations pacifiques en solidarité avec les personnes visées et de soutenir les mouvements sociaux en faveur de changements sur le terrain des droits humains aux quatre coins du monde. Tout au long de l'année 2022, les autorités iraniennes ont systématiquement opposé une réaction militarisée aux manifestations, qu'elles soient localisées ou nationales, utilisant des balles réelles, des projectiles en métal, du gaz lacrymogène et des canons à eau, afin d'écraser des manifestations largement pacifiques. Des centaines de manifestants et de passants, dont des dizaines de mineurs, ont été tués illégalement par les forces de sécurité. Une fillette de 6 ans est morte après avoir reçu une cartouche de gaz lacrymogène à la tête. Des milliers d'autres personnes ont aussi été grièvement blessées et ont notamment perdu la vue, mais beaucoup ont renoncé aux soins médicaux par peur d'être arrêtés. Donc ça, c'était en Iran. Dans les manifestations de grande ampleur ayant débuté au Pérou en décembre 2022, l'armée et la police nationale péruvienne ont illégalement ouvert le feu avec des armes létales et utilisé d'autres armes à létalité réduite contre la population, en particulier des personnes autochtones et des paysans. Ce recours illégal à la force s'est soldé par 49 décès du début de la campagne répressive de l'État jusqu'au mois de février 2023. Les manifestations étaient majoritairement pacifiques. Pourtant, selon certains éléments de preuve, la police et l'armée ont utilisé des balles réelles, des projectiles et du gaz lacrymogène de manière inconsidérée, tuant ou blessant des passants, des manifestants et des personnes prodiguant les premiers soins à des blessés. Au Sri Lanka, le gouvernement a renforcé ses mesures de répression vis-à-vis de l'opposition, tandis que des milliers de personnes manifestaient contre la situation économique catastrophique. L'utilisation abusive de gaz lacrymogène et de canons à eau est devenue monnaie courante pour répondre aux manifestations. Ces méthodes touchent aussi bien les participants, parmi lesquels des enfants, que les passants. Ces tactiques ont causé la mort d'au moins une personne lors d'une manifestation en juillet 2022. En Ukraine, les forces russes de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants pacifiques qui étaient descendus dans la rue à Kherson en avril 2022 afin de réclamer la fin de l'occupation de la ville par les forces russes. La dernière mise à jour de cette enquête, donc d'Amnesty, présente des exemples similaires d'utilisation abusive en Colombie, en Équateur, en Grèce, en Inde, en Indonésie, en Irak, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés et en Turquie. Amnesty International a relevé des usages inconsidérés du gaz lacrymogène par la police qui prennent de multiples formes. Tirs dans des espaces confinés, tirs en direction de personnes, utilisation de quantités excessives, tirs dans des manifestations pacifiques et tirs contre des groupes où se trouvent des personnes dont les capacités pour s'enfuir sont réduites ou qui sont plus sensibles que les autres aux effets du gaz, tels que les enfants, les personnes âgées et celles atteintes d'un handicap. Bien qu'il soit largement utilisé de façon abusive, il n'existe pas de réglementation au niveau international sur le commerce du gaz lacrymogène et des autres produits chimiques irritants. Rares sont les États qui rendent publiques des informations sur les destinataires de leurs exportations de gaz lacrymogène et sur les quantités exportées, ce qui empêche de contrôler la situation de façon indépendante. Alors c'est ce qui amène à la fin de la présentation de ce rapport, c'est qu'en fait Amnesty effectivement cherche à obtenir une réglementation internationale pour le commerce des gaz lacrymogènes et d'autres armes à létalité réduite, comme on disait, dans le cadre du maintien de l'ordre lors des manifestations. Donc Amnesty International et la Fondation de Recherche Omega mènent campagne depuis plus de 20 ans pour que la fabrication, le commerce et l'utilisation du gaz lacrymogène et d'autres types d'équipements et d'armes destinées au maintien de l'ordre soient mieux contrôlés. Grâce à ce travail, l'Union européenne a adopté des mesures de contrôle du commerce de certains types d'équipements et les Nations unies et le Conseil de l'Europe ont reconnu la nécessité de réglementer l'exportation d'articles destinés au maintien de l'ordre pouvant être utilisés pour commettre des actes de torture et d'autres mauvais traitements. Et enfin, la présentation se termine, je vais vous résumer. effectivement, en disant que suite, entre autres, à une pétition lancée par Amnesty l'an dernier et qui a accueilli plus d'un million de signatures à travers le monde, l'ONU s'est mise à étudier la possibilité de mettre en place un système de contrôle du commerce international des équipements destinés au maintien de l'ordre, notamment le gaz lacrymogène, afin d'empêcher qu'il ne soit utilisé pour commettre des actes de torture et d'autres mauvais traitements. Voilà. Donc je vous renvoie effectivement sur le site amnesty.org à cette enquête hein, sur les gaz lacrymogènes. Bon, là, c'est simplement la présentation. Il y a plein de vidéos interactives, des interviews de spécialistes qui expliquent bien, entre autres, les conséquences en termes d'atteinte à la santé des gens qui sont pris dans des nasses et qui subissent des tirs tendus de gaz lacrymogènes, ce que ça représente au niveau des atteintes. Des risques que ça peut représenter, y compris pour les personnes sensibles, mais pas que, enfin, etc., etc. Donc je vous renvoie à ce site qui est vraiment très très bien fait, qui est beaucoup plus complet que ce que je viens de vous dire, et qui rentre dans cette action pour réglementer ce type d'armes pour les forces de police, rentre dans le cadre de notre campagne mondiale sur le droit de manifester. Voilà. Donc... Pour rester un peu dans le même ordre d'idée, je crois que c'est Clairlys qui va vous parler de Kesako, un arrêt de la Cour de cassation.
Oui, alors c'est un article qui est un petit peu...
Clairlys, juriste.
En fait, je m'épanouis un petit peu moins parce que j'avais dit oui, je vais le faire, l'article et tout. Puis après, je me dis, oh, c'est bon, bref. Ouais. Alors, c'est quand même un article qui est important, c'est pour ça que j'ai flashé dessus. Parce qu'en fait, il y a eu deux arrêts de la Cour de cassation qui sont une victoire par rapport à des victimes syriennes. Et je vais revenir dessus après, donc qui établissent qui vient de reconnaître la compétence universelle de la France dans deux affaires syriennes. Donc la plus haute juridiction française offre ainsi un espoir important de justice pour les victimes syriennes et pour de nombreuses autres victimes de crimes de guerre et contre l'humanité. Donc avec plusieurs organisations partenaires, nous saluons cette décision et voici donc pourquoi c'est une avancée. On disait tout à l'heure, par rapport à l'Afghanistan, qu'il fallait dénoncer auprès de la Cour pénale internationale, donc qui se charge de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Mais on disait aussi que et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, que les gouvernements eux-mêmes peuvent aussi instruire des dossiers contre des crimes de guerre dans leur pays. Et parfois, il y a des verrous qui sont posés par la loi même des pays qui font qu'on peut pas aboutir. Et là, la Cour de cassation, elle vient d'ouvrir un ou deux verrous. Donc, c'est intéressant. Donc, deux arrêts rendus le 12 mai 2023 par la Cour de cassation en France, relatifs à des affaires de crimes graves commis en Syrie, ont reconnu la capacité de la France à répondre aux crimes internationaux les plus graves, ont déclaré qu'aujourd'hui, 9 organisations de défense des droits humains c'est ce qu'a déclaré 9 organisations de défense des droits humains. Bien qu'elles permettent de confirmer la compétence des tribunaux français sur un nombre important d'affaires en cours, elles n'empêchent pas les conditions restrictives de demeurer dans la loi. Le gouvernement français devrait procéder à des réformes urgentes pour lever les obstacles juridiques qui menacent de faire de la France un refuge pour les responsables des pires crimes commis à travers le monde. Donc la Cour de cassation, donc qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, elle avait à examiner les dispositions du droit français qui limitent l'accès des victimes à la justice pour les crimes les plus graves commis à l'étranger. Les juges ont estimé que les conditions requises étaient réunies pour que la justice française soit compétente à l'égard des ressortissants syriens mis en cause pour des actes commis en Syrie à l'égard de membres de la population syrienne. Donc, la Cour de cassation a suivi les réquisitions du procureur général et les plaidoiries des parties civiles qui l'invitaient à privilégier une interprétation non restrictive des textes en vigueur pour permettre à la justice française de poursuivre les auteurs de crimes internationaux, a déclaré Brigitte Jolivet, porte-parole de la Coalition française pour la Cour pénale internationale. En effet, ces deux décisions très attendues auront une incidence en France sur des dizaines de plaintes et d'enquêtes relatives aux crimes internationaux commis non seulement en Syrie, mais aussi dans d'autres pays, notamment en Libye et en République démocratique du Congo. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement français devra prendre ses responsabilités en proposant au Parlement de modifier la loi. Donc la Cour de cassation a examiné l'application en France du principe juridique de compétence universelle qui permet aux autorités judiciaires nationales de poursuivre les crimes les plus graves au regard du droit international, même s'ils n'ont pas été commis sur le territoire du pays ou par ou contre l'un de ses citoyens. Les affaires examinées dans ces deux décisions concernaient des faits récents commis en Syrie et ont permis de mettre en lumière la manière dont les restrictions du droit français limitent l'exercice de la compétence universelle à l'encontre des personnes impliquées dans les crimes les plus graves, ont déclaré donc les organisations. Donc,
Affaires, tu peux nous expliquer un peu.
Alors, les deux
pratiques.
Affaires. Donc, l'une concernait Abdul Hamid Shaban, un ancien soldat syrien inculpé pour complicité de crimes contre l'humanité en février 2019. Et l'autre concernant Majdi Nema, ancien porte-parole d'un groupe armé syrien accusé de crimes de guerre, de torture et d'autres chefs d'inculpation. Et dans les deux affaires, la Cour s'est penchée sur les conditions dans lesquelles les tribunaux français peuvent juger des actes de torture, crimes contre l'humanité et crimes de guerre en vertu de la compétence universelle. Donc, en novembre 2021, la Cour de cassation a considéré que la justice française était incompétente pour poursuivre Abdul Hamid Shaban pour crimes contre l'humanité. Et dans une application restrictive de la condition de double incrimination, la Cour a estimé que les poursuites ne pouvaient pas être engagées en vertu du droit français car il n'existe pas de disposition dans le droit interne syrien criminalisant explicitement les crimes contre l'humanité. À la suite de cette décision, des représentants de la société civile, des avocats et des survivants ont exprimé leur inquiétude d'une mauvaise application du principe de la double incrimination, que ce principe puisse conduire à ce que les auteurs de crimes graves présents en France échappent à la justice et ont appelé à des réformes pour supprimer cette condition. Donc, dans l'affaire Nema, la Cour d'appel de Paris ne s'est pas conformée à la décision antérieure de la Cour de cassation. Elle a retenu une interprétation moins restrictive de la règle de double incrimination en considérant que la Syrie était liée par les dispositions du droit international interdisant les crimes de guerre. Cependant, cette affaire a également mis en évidence une deuxième condition problématique posée par le droit français selon laquelle une personne accusée doit résider de manière habituelle sur le territoire français. Donc, l'affaire Nema ayant créé une incohérence dans la jurisprudence française sur la règle de la double incrimination, la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a décidé d'examiner cette question ainsi que la condition de résidence habituelle. La Cour a également examiné si les membres de groupes armés non étatiques pouvaient, sous certaines conditions, être poursuivis pour torture en France ou si seuls les agents de l'État pouvaient être poursuivis pour ce crime. Et donc, le 17 mars dernier, les différentes parties ont exposé leurs observations concernant ces deux affaires devant la Cour de cassation. Et donc, elle a pris la Cour de cassation. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais donc, elle a pris une décision qui ouvre le droit à la France de juger ces crimes de guerre. Elle a ouvert des verrous, en fait, dans le droit français. Voilà, donc, il y a des réformes à faire. Les députés en ont déjà proposé et en fait, elles sont souvent rejetées, ces réformes. Donc, il faut vraiment continuer à avancer dans le droit pour que, justement, on ne soit pas pris au piège de notre propre droit et qu'il y a de plus en plus, quand même, de pays dans le monde où il y a des crimes de guerre en ce moment, que ce soit... on a parlé aussi beaucoup de l'Ukraine. Hein, et il faut que ces criminels ils puissent être jugés, qu'ils soient de Syrie, qu'ils soient de Libye, qu'ils soient de RDC ou qu'ils soient venant de Russie en Ukraine. Ces criminels, ils doivent être jugés absolument.
Doivent être jugés et la France ne doit pas être un pays sûr pour eux parce que bah c'est oui. Ça la problématique. Si,
c'est
le,
ça.
Si la loi ne peut pas faire bouger les lignes au niveau des jugements, eux, ils vont comprendre que c'est très très bien
donc,
de venir en
pour
France.
Pour terminer, je vais vous dire justement une petite citation. C'est « Le gouvernement français devrait mettre un terme à toute ambiguïté concernant la capacité de la France à poursuivre des crimes graves », a déclaré Alice Autin, coordinatrice de la division Justice internationale à Human Rights Watch, la France pourrait jouer un rôle clé dans la promotion de la justice internationale partout dans le monde, à condition que de sérieux changements législatifs suivent rapidement. Et les organisations signataires, ce sont Amnesty International France, la coalition française pour la Cour pénale internationale, la Fédération internationale pour les droits humains, la Ligue des droits humains, Human Rights Watch, Redress, Reporters sans frontières, le syndicat de la magistrature et Trial International.
Ben bravo Claire-Lise. Voilà. C'est pratiquement clair. Bon, après, je ne sais pas tout ce qu'il faut faire, mais j'ai bien compris la problématique. Voilà. Tu es une très bonne légiste.
Et je sais pas. Parce que pourtant, ça me barbait un petit peu après. Mais,
Non, mais c'est la problématique, effectivement, des accords internationaux et comment il peut y avoir des petites...
C'est comment on fait sauter les verrous.
Voilà. C'est ça.
Et là, il y en a deux petits qui ont sauté, mais il en reste.
Il y en avait quatre, en fait. Alors, j'ai plus les quatre en tête, mais la loi française avait établi quatre restrictions, effectivement, à cette notion de compétence universelle pour juger les responsables de crimes contre l'humanité.
Mais c'est en train de s'améliorer.
De guerre. Voilà. Et ça fait des années qu'Amnesty se bat pour réclamer effectivement la suppression de ces verrous, et donc la Cour de cassation va dans le bon sens parce qu'elle vient d'en faire sauter, enfin d'en relativiser deux.
Voilà, il faut que ça continue.
Ce qui est déjà important. Mmh. Voilà. On va passer à la deuxième pause musicale.
On est dans les temps. Hein.
Et oui.
Carrément.
Et
c'est pour Mina.
Et on se retrouve juste après.
Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis, comment elle aurait fait avec un bébé comme paquetage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Trois mois de périple dans toutes sortes d'embarcations. Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme bâillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on vient d'entendre Grand Corps Malade, un morceau qu'on vous avait déjà passé il y a quelques temps. Grand Corps Malade, ça s'appelle Au Feu Rouge et ça parle aussi de Syrie. Voilà.
Edith, tu avais un sujet un petit peu difficile
à nous faire part, mais c'est indispensable.
Bah, c'est aussi le travail d'Amnesty et c'est l'une des conditions essentielles pour adhérer à Amnesty, c'est-à-dire être contre la peine de mort.
C'est une des campagnes les plus anciennes d'Amnesty.
Ça nous semble tellement évident. Et donc, tous les ans, Amnesty sort un rapport sur l'état de la peine de mort dans le monde. Et celui-ci, le dernier, qui a été mis à la connaissance du public il y a très peu de temps, donne un mauvais chiffre.
Une quinzaine de jours, je crois,
voilà.
Comme ça.
883. C'est le record d'exécution en 2022. Le nombre le plus haut enregistré depuis 5 ans. Alors que l'abolition de la peine de mort continue à gagner du terrain dans le monde, l'an dernier, les exécutions judiciaires ont atteint un niveau record depuis 2017. En cause, la frénésie particulièrement meurtrière de l'Iran, l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, et sans compter des milliers d'exécutions qui ont probablement eu lieu en Chine dans le plus grand secret. En 2022, selon notre rapport actuel annuel sur la peine de mort, le nombre d'exécutions enregistrées est remonté en flèche. C'est 53% de plus que 2021. Un chiffre étourdissant. 90% des exécutions recensées dans le monde en dehors de la Chine ont été réalisées simplement par 3 pays. Alors sans surprise, c'est en Iran, deuxième pays où l'on pratique le plus la peine de mort après la Chine. Les exécutions ont malheureusement connu la hausse la plus importante, 576 personnes exécutées contre 314 en 2021. Alors je ne vais pas aller plus sur l'Iran parce que Didier va vous en parler après moi. Donc l'autre pays, le pays qui suit, c'est l'Arabie Saoudite, qui est passé de 65 personnes exécutées à 196 cette année. Les États-Unis, le seul pays des Amériques à continuer à procéder à des exécutions depuis 14 ans, le nombre d'exécutions a également augmenté de 11 à 18. Mais il faut quand même noter que ce chiffre reste l'un des moins élevés jamais enregistrés aux États-Unis. Alors l'Europe. Eh bien l'Europe, il y a toujours l'exception du Bélarus, qui demeure le seul pays de la région à recourir encore à la peine capitale. Et enfin, nous notons la reprise d'exécution dans 5 pays qui n'avaient connu aucune exécution en 2021. L'Afghanistan, le Koweït, le Myanmar, l'État de Palestine et Singapour. Malgré ce contexte peu réjouissant, plusieurs pays ont pris des mesures décisives contre la peine de mort. Et cette année encore, de nouveaux pays ont rejoint notre combat en faisant un pas décisif vers l'abolition universelle de ce châtiment, le plus cruel, le plus inhumain et le plus dégradant qu'il soit. Alors, quelques informations sur les raisons des condamnations à mort. Donc, il y a un pays où, alors là, les exécutions sont tenues secrètes, c'est la Chine. Le pays qui exécute le plus au monde, mais qui continue à tenir secrètes ses statistiques sur la peine de mort. Et comme les années précédentes, les totaux mondiaux enregistrés des exécutions ne comprennent pas ce qui s'est passé, les condamnés à mort, les exécutés en Chine. Comme on peut penser aussi en Corée du Nord ou au Vietnam. C'est le secret qui entoure ces pratiques dans ces 3 pays et un accès très restreint aux informations à leur sujet. Il est impossible d'avoir des statistiques fiables, mais en Chine, on est sûr qu'il y a plusieurs et encore plusieurs personnes condamnées à mort. Alors la peine de mort est toujours utilisée comme instrument de terreur. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, donc toujours l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, c'est les endroits où on va essayer d'utiliser la peine de mort pour faire peur. Ces pays veulent étouffer des mouvements de contestation et instaurer la terreur. Donc en Iran, bon, là, je prends juste un tout petit peu sur toi, Didier. C'est le soulèvement déclenché par la mort en détention de Mahsa Amini qui a vraiment réactualisé la peine de mort comme moyen de répression. Alors, Arabie Saoudite aussi, qui a vu le nombre des exécutions tripler entre 2021 et 2022. Et on se rappelle, Amnesty, une année, une journée, où il y a eu 81 personnes exécutées le même jour. Comment peut-on exécuter ça ? L'Égypte, bon, c'est une situation très inquiétante. Il y a toujours une augmentation et le pays reste vraiment un des principaux exécuteurs. Une autre façon d'utiliser la peine de mort, c'est par rapport au trafic lié au trafic de drogue. Et là, c'est vraiment aussi impressionnant, car on peut être condamné à la mort pour une infraction liée à la législation des stupéfiants, mais du trafic d'héroïne au fait d'être en possession d'une petite quantité de marijuana. Donc, ces exécutions sont loin d'être anecdotiques. Donc, on a trouvé toujours les mêmes pays, Arabie Saoudite, Chine, Iran, Singapour. Cette explosion de recours à la peine capitale pour des infractions à la législation sur les stupéfiants est particulièrement préoccupante. La peine de port
Vas-y, continue.
Oui, qui bafoue le droit à la vie est utilisée dans ces circonstances, porte atteinte au droit international et aux normes internationales. Elle est susceptible d'ôter la vie à des personnes condamnées à l'issue de procès iniques et touche de manière disproportionnée les personnes issues de minorités ou des milieux socio-économiques défavorisés. Donc Agnès Calmar, la présidente d'Amnesty, dit « Il est temps que les gouvernements et les Nations Unies accentuent la pression sur les responsables de ces violations flagrantes des droits humains et veillent à ce que les protections internationales soient mises en place. » Bon, alors on va finir quand même par les bonnes nouvelles. Les pays qui, eux, ont arrêté et ont permis de faire reculer la peine de mort dans le monde. 6 pays ont aboli entièrement ou partiellement la peine de mort. Le Kazakhstan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Sierra Leone et la République centrafricaine. Et d'autres ont le feu de façon ponctuelle. Donc, voilà. Voyons le verre plein, le verre vide, mais c'est quand même quelque chose de terrible.
Oui, enfin, comme dit le proverbe, c'est le verbe à moitié plein ou à moitié
vide. Bah oui, mais Didier, tu voulais nous parler de l'Iran.
De l'Iran, voilà, je t'ai laissé l'Iran.
Oui, tout à fait, en complément de ce que vient de vous dire, effectivement, Edith, je vais vous lire juste le début d'un communiqué qui est paru le 19 mai, donc c'est très récent. Donc voilà, d'Amnesty, voilà ce qu'il dit. Vendredi 19 mai au matin, Majib Kazemi, Saled Misra Chemi et Sayed Yagoubi ont été exécutés en lien avec le soulèvement déclenché par la mort de Mahsa Amini, comme vous l'a dit Edith. Donc c'est bien sûr en Iran. Avant eux, au moins 4 manifestants avaient été exécutés. Plusieurs personnes risquent de subir le même sort. Les autorités iraniennes utilisent la peine de mort pour instiller la peur et faire taire les voix dissidentes. Les exécutions en lien avec le soulèvement ont démarré le 8 décembre 2022. Mohsen Shekari est le premier manifestant à avoir été exécuté. 5 jours plus tard, Majid Reza Ranavar a été exécuté sur une place publique à Mashhad. Début janvier, Mohamed Mahdi Karami, 22 ans, et Seyed Mohamed Hosseini, 39 ans, ont été exécutés. L'horreur s'est poursuivie le 19 mai avec l'exécution donc de ces 3 Iraniens dont je viens de vous parler, Majid Kazemi, Saled Misra Chemi et Sayed Yagoubi, 37 ans, pour leur lien avec le soulèvement. Tous ont été condamnés suite à des procès iniques et expéditifs. Et ce qu'on dit effectivement beaucoup de personnes en Iran, c'est de dire « ce sont des jeunes qui sont tués, c'est effrayant ».
On en avait déjà parlé justement, je crois que c'était au mois de mars, hein, on avait repris justement et que les exécutions, et qu'il y en avait certains qui étaient encore dans les couloirs.
Tout à fait.
C'était tous dans les couloirs de la mort, des jeunes, des moins de 30 ans qui attendent malheureusement.
Et alors je vais passer directement à la fin de ce communiqué, parce que bon, je veux dire, ce qui est dit, l'horreur de ce qui est dit parle d'elle-même, mais pour rester effectivement là aussi sur une note un peu positive, bon, suite à une action d'Amnesty, une pétition qui a également dépassé les 1 million de signatures remises auprès de l'ONU, le 22 décembre 2022, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a créé une mission chargée d'enquêter sur les violations des droits humains liées aux manifestations en Iran. Une décision forte qui doit ouvrir la voie à de futures poursuites. Nous espérons que cette mission sera à la hauteur des enjeux. Et parmi les choses positives qui sont faites, 100 parlementaires français ont parrainé des manifestants actuellement condamnés à mort pour visibiliser le sort macabre des Iraniens condamnés. Chaque action est bénéfique pour obtenir un réel sursaut de la communauté internationale afin que cessent les exécutions. Et enfin, plusieurs personnalités publiques, acteurs, sportifs, artistes, journalistes, se sont mobilisés en Iran et partout dans le monde pour dénoncer la répression sanglante.
Et il y a régulièrement des manifestations. J'ai vu qu'il y en avait une en début juin, là aussi, pour soutenir les Iraniens.
Tout à fait. Et ça m'a rappelé ce que j'avais... Reportez-vous à la précédente émission où je vous ai lu les extraits d'une lettre d'une actrice iranienne qui est actuellement réfugiée en France. Et lors d'un voyage là-bas, il y a une personne avec qui il a discuté qui a dit « Mais dites-leur au public français qu'on est juste, nous les Iraniens, des gens gentils et qu'on n'a rien à voir avec ceux qui nous gouvernent. » Voilà.
Tout à fait.
Et donc voilà, bon, on va passer à la fin de l'émission et donc à nos actualités locales. Et donc, on en a plusieurs, là, ces actualités locales. Donc je vais les reprendre dans l'ordre, comme m'a dit Claire-Lise au
Alors,
début.
Alors, par date,
attention,
c'est plus facile pour les gens.
Il faut les prendre par date.
Prenez vos agendas, notez.
Prenez vos agendas. Alors le 10, samedi 10 et dimanche 11 juin prochain, on sera présent, on tient un stand au Festival Rock, ça sonne à la porte à Grosse-Œuvre. Donc le samedi 10 et le 11 juin. On vous rappelle que c'est un festival rock gratuit et on y sera et on parlera entre autres de la campagne sur le droit de manifester. Donc, venez nous retrouver sur ce festival. Deuxième actualité locale, c'est notre prochaine émission de radio, donc Amnesty, le mardi 13 juin, 19h à 20h, en direct sur l'antenne de Principe Actif. Autre émission de radio, ce sera là par contre le jeudi 22 juin et c'est une nouvelle émission de la série Fréquence Droits Humains et elle sera consacrée à la thématique des réfugiés et des migrants. Donc, n'hésitez pas à nous écouter aussi le 22 juin.
C'est en lien avec la journée mondiale des réfugiés, bien sûr.
C'est ça.
Et on sait où ça va avoir lieu ?
Non, pour l'instant, c'est à Évreux.
C'est à Évreux, voilà, vous allez donner les infos.
Mais c'est en direct sur l'antenne de Principe Actif et il y aura le podcast de mis sur le site, bien sûr, après. Et donc, et la dernière information locale, on vous la donne un petit peu en avance, mais notez aussi sur vos agendas, le dimanche 2 juillet, ce sera notre prochaine foire aux livres, à l'espace Saint-Léger, donc sur le parking de l'espace Saint-Léger.
Venez faire le plein de livres pour vos
vacances. Sous le soleil, alors, parce qu'il y aura du soleil.
Il y a plusieurs choses pour la foire aux livres. Venez faire le point de livres pour les vacances, comme dit Edith. Venez nous signer nos pétitions.
Et venez nous
Et puis
aider.
Aussi, si vous êtes jeune, plein d'arteurs, ou même moins jeune, mais que vous avez du temps, venez nous aider, parce qu'en fait, on a des centaines de caisses de livres à sortir le matin, entre
pas 7... d'heure et
Il faut que les tentes soient montées par la mairie, et des fois, c'est des filous, ils viennent nous monter les tentes à 8h. Donc,
de courageux avec
après,
nous.
On a peu de temps pour installer les tables, et mettre toutes les caisses de livres en place, et puis le soir, pour les ranger aussi.
Voilà, on a besoin de gens courageux et qui aiment Amnesty.
Voilà.
Donc, et les livres.
Donc voilà.
Après, on peut leur offrir des caisses de bouquins.
Ouais, carrément. Hein.
Carrément.
On peut payer en livres.
On peut les payer en livres.
Donc, c'est le dimanche 2 juillet, donc sur le parking de l'espace, sur la place de l'espace Saint-Léger.
On en reparlera.
On en reparlera aux prochaines émissions, mais notez déjà tout ça. Donc voilà, on se retrouve au Festival Rock, on se retrouve à la radio, on se retrouve pour la foire aux livres, et ça fait déjà beaucoup de choses. Voilà, on va laisser la place au laboratoire, mais je vois que ça s'est affiché, c'est une rediffusion ce soir du laboratoire. Donc voilà, on va laisser l'antenne.
On va quand même finir l'émission, de toute manière.
Voilà, tout à fait.
C'est normal,
on n'est pas en retard, pour une fois.
On va laisser l'antenne, et donc on va dire bonsoir à tout le monde, et on se retrouve donc en direct à la radio, que je ne me trompe pas,
le
mardi 13 juin, pour la prochaine émission Fréquence.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.